rassurer, quoi qu'on dise, les marchés financiers et surtout la Commission européenne.
Voilà, vous avez la réponse. Enfin, en tout cas, une réponse, celle de David Libeskind. Voilà, mon cher Mohamed. Mohamed, vous êtes là ? Je vous libère, Mohamed. Je vous dis à bientôt. Sauf si vous voulez rajouter autre chose.
Non, non, c'est bon, c'était juste ça qui m'a...
Mais vous avez raison. Alors, il a raison, Mohamed, sur un point, vous savez quoi, là où je le rejoins, c'est l'économie. Oui. Parce qu'elle ne s'annonce pas très bonne dans les semaines à venir, l'économie. Justement, il a raison, Mohamed.
Pour moi, les deux sont...
Est-ce qu'on peut s'inquiéter ?
Pour moi, les deux
Merci,
sont...
Merci, Mohamed, pour votre appel.
Je vous remercie.
Mais avec plaisir, bonne soirée.
Pour moi, les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que si, sur le plan économique, un pays retrouve des couleurs, ça va tout de suite mieux sur le plan politique. Les votes, une bonne partie des votes FN, quoi qu'on en dise, c'est des votes de colère relatifs à la perte de pouvoir d'achat. Vous prenez 100% de l'électorat FN, finalement, je dirais pas que c'est portion congrue, mais le nombre de personnes qui sont vraiment préoccupées par l'immigration est très relatif. Par contre, des personnes préoccupées par leur pouvoir d'achat, elles sont nettement plus nombreuses. Après, le FN a réussi à faire croire aux gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat que c'est la faute des immigrés. Là, après, c'est tout le discours populiste qui est le leur depuis maintenant quelques décennies. Mais soigner un pays économiquement, quand on a le ventre plein, on s'en prend pas à son voisin. Voilà, tout simplement.
Bon, écoutez, voilà. Amine de Créteil, bonjour. Bonjour, Amine.
Oui, ça bonsoir.
Va bonsoir, vous bonsoir. Allez bien ?
Ça va, et vous ?
Très bien, je vous remercie. On vous écoute.
Je suis un peu sidéré, en fait.
Dites-nous pourquoi.
Sidéré, choqué relativement. Et j'aurais bien aimé qu'on nous affiche, en fait, l'arrière-pensée, en tout cas, où le dogme depuis 2017, c'est celui que je gouverne sans vous, en fait. Sans vous, sans votre avis, sans votre choix. Et j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire une familiarité. Mais vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais ce que je veux. Donc moi, là au jour d'aujourd'hui, au-delà de la question économique, etc., là, vivre un déni de démocratie comme de cette nature, en fait, c'est vraiment c'est de l'insolence. Mais rien n'est ce n'est pas surprenant de Macron. Et je me demande quelle leçon démocratique. Quelle leçon politique que la France souhaiterait éventuellement donner à l'extérieur, elle est relativement très mauvaise. Et pour tous ceux qui souhaiteraient s'émanciper démocratiquement, ils ont un peu de mal aujourd'hui de s'appuyer éventuellement sur le modèle français. Donc c'est complètement, vraiment, c'est vraiment choquant. Barnier, il est ce qu'il est, mais il n'est pas à sa place, en tout cas là. Ce qu'il représente, la représentation, elle est aujourd'hui, elle n'a pas de sens. Vous avez des élections que Macron perd, européennes, des législatives, idem, il les perd. Et après, il vous dit, bah, écoutez, moi, je vais prendre un commercial qui va gérer l'entreprise que je gère. Là, on a vraiment...
Quand je vous disais qu'effectivement, ils sont beaucoup à penser ça. Vous avez planté un décor qui est partagé par beaucoup, je vous le dis, Amine. Merci d'être intervenu, Amine. Hein, effectivement.
Merci.
Qui veut lui répondre plaisir. Parce qu'effectivement, qui veut lui répondre avant de lancer la pause là, c'est intéressant ce que dit Amine, c'est vrai. Mais Amine, pardon.
Non, il a raison. En fait, Emmanuel Macron, l'opinion publique, il s'en fout. Les élections, il s'en fout. Il fait comme il veut.
Mais ils sont beaucoup à penser comme Amine.
Oui, mais parce qu'en fait, l'effet le démontre depuis qu'il est nommé depuis 2017, qui est président de la République.
Oui, mais ça devient
il fait tout seul. Il fait tout seul. Le Covid, pour gérer la crise Covid, il a fait tout seul avec ses consultants, entre guillemets, sans consulter l'Assemblée nationale. Et là, c'est pareil, en fait. Là, en fin de compte, il y a une coalition politique, le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Il aura fallu qu'il nomme Lucie Castet. Quoi. Après, c'était à Lucie Castet, en fait, de trouver des majorités à l'Assemblée nationale.
Même si elle se faisait censurer,
voilà.
Elle aurait pu arriver à l'Assemblée nationale, elle fait son discours. Si c'est voté, tant mieux. Si c'est pas voté, on recommence et on va chercher un autre nom.
Si je peux apporter un tout petit peu de nuance, non pas que je me fasse l'avocat des uns ou des autres, mais il y a des termes, les mots d'un poids, déni de démocratie.
Ben c'est vrai.
Les gens sont allés aux urnes massivement et peut-être.
Vous répondez à Amine là.
Alors je réponds à Amine, mais de manière générale, parce que j'entends beaucoup de termes comme ça, alors limite dictature, mais déni de démocratie. Les gens sont allés massivement aux urnes et je crois que c'était un record depuis les années 80.
Donc il n'y a pas de déni.
Au sens strict du terme, les gens se sont exprimés, mais pour moi, et quand je regarde encore une fois l'arc de cercle de l'Assemblée nationale, la vraie anomalie, et la taille, le poids du Front National dans cette Assemblée nationale. Pourquoi en est-on arrivé en tant que pays, en tant que citoyen, en tant que peuple, à élire presque 200 députés d'un parti comme le FN ?
Vous avez la réponse, vous avez la réponse dans ce que vous avez dit tout à l'heure.
Bien sûr.
Vous l'avez dit tout à l'heure.
Je l'ai, la réponse. Mais en revanche, c'est...
Vous avez parlé de pouvoir d'achat, vous avez parlé de rassurer la
si
France.
Si on reprend, je ne vais pas faire le vieux briscard de la politique, je ne suis pas, mais en 2007, à l'élection de Nicolas Sarkozy, le FN était quasiment mort. Parce qu'on était, à l'époque, sur une trajectoire de croissance élevée, etc. Donc, le vrai souci, selon moi, c'est que le RN a pris trop de place. Et la raison, c'est le pourquoi. Et ça, c'est la cause. Enfin, il faut traiter la cause de ce mal-là. Exactement. Mais en fait, il faut traiter la cause de ce mal-là avant d'aller essayer d'expliquer les tambouilles politiques. La politique, ça a toujours été de la tambouille. Pardon. Hein. Et depuis aussi loin que cela remonte, même jusqu'à l'Antiquité.
Le RN a récupéré l'électorat de droite, tout simplement.
Et de gauche aussi.
Il est devenu, malheureusement.
Et d'une certaine gauche.
Non, mais surtout de droite, puisque bon, LR, c'est 6%.
Et d'une certaine gauche.
Donc, en fin de compte, il a récupéré l'électorat de droite. Voilà, il s'est dédiabolisé. Et voilà,
il a raison, mais là, quand il dit une certaine gauche, il n'a pas tant. Parce qu'ils ont quand même favorisé l'arrivée du Front National. Et il n'a pas tant. Avec les discours, avec les expressions chocs, avec évidemment les déclarations.
Je ne vois pas un Front Républicain au second tour pour en arriver là.
Oui,
je suis désolé.
Je ne vois pas en quoi la gauche a favorisé l'émergence.
On reparlera des années Mitterrand pour savoir comment la gauche a favorisé le FN, quand même.
Oui, Mitterrand. Mais après, la gauche contemporaine.
Mitterrand, il a ouvert la voie.
Quand on plante une graine et qu'on l'arrose, elle pousse.
Oui. Il n'a pas donné. Alors, il n'a pas favorisé. Il a ouvert la voie. Il a dit OK.
Il a ouvert la voie.
En fait, il a donné son aval. Je vous permets. Donc,
Il y avait une émission. Je rappelle que les premiers députés FN cette fois vraiment sans arriver à l'Assemblée nationale, suite à une réforme du code électoral qui introduisait une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale, donc au milieu des années 80. Alors, donc là aussi, on le doit à Tonton
Je lance la pause et on se retrouve tout de suite après. Il y a l'Arbi aussi qui nous appelle de Valence. À tout de suite, 01 53 48 3000.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. 19h-20h, les informés du quartier, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec l'Obnasta, avec David Lemesquite.
Alors,
Gabriel Attal, j'ai dit.
Voyons, je ne suis pas Gabriel Attal, s'il te plaît, pas
l'infini. Moi, je ne parlais même pas toi, en plus.
Gabriel Attal, moi.
Ah non, mais s'il veut venir ici, il est bienvenu, on fait une petite interview, tranquille, pour faire son bilan. Ok, j'ai compris que vous étiez fan, l'Obnasta. C'est vrai, il en faut bien.
Oui, c'est mieux.
Toujours.
Et Ménad Ouchenir. On va parler, vous savez quoi, de cette manifestation. Tiens, un mot sur le nom, avant de parler de la manif, je voudrais accueillir l'Arbi qui attend depuis tout à l'heure, l'Arbi de Valence. Valence, bonjour Valence, comment ça va, mon cher l'Arbi ?
Très très bien, ça va, parfait avec vous.
Bon, super. Bon, bah écoutez, on vous écoute, bienvenue.
Voilà, merci beaucoup. Bon, voilà, moi ce que je pensais déjà, c'est que. Est-ce qu'on n'est pas devenu une république bananière ? Je me pose la question.
Ouais. Vous allez nous fâcher, Ménad Ouchenir, qui n'en peut plus de tout ça. Ménad, il vous écoute. Lui, il ne peut plus. À chaque fois qu'on parle de déni, de république bananière.
Il a raison.
Si, il a raison.
Le peuple français a désigné un groupe qui s'appelle l'NFP.
Tout à fait.
Voilà. Pourquoi il n'y a pas un candidat ?
Voilà, Ménad. Voilà, Ménad. Vous prenez ça en pleine face, Ménad. Ils sont beaucoup à penser comme l'Arbi de Valence.
Et avec plaisir.
Le reste, c'est de la littérature.
Bah, c'est ce que j'ai dit, l'Arbi, moi. C'est ce que je me tue à dire.
Je vais donner
M. Barnier, qui a été désigné par Macron. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire du recyclage. Mmh. On va avoir du Bérou, ministre, je suis sûr et certain. Et même, peut-être, j'irai même plus loin, on aura peut-être M. Ciotti, vous voyez ?
Ouais, fâché, donc il veut
Tout de suite, Adil. Non, simplement, l'Arbi, et ce que je défends, c'est ce qu'on appelle en philosophie la rectitude des noms. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont des sens, des significations. Tout à l'heure, on parlait de déni de démocratie, c'est pas vrai. Quand les gens sont appelés aux urnes.
Il aime bien faire de la rhétorique, lui.
Les gens sont allés aux urnes.
Toujours le groupe en tête.
Ils ont pu s'exprimer. Dans une république bananière, par exemple, puisque ça existe, on a ce qu'on a fait phénomène qui s'appelle le népotisme, c'est-à-dire que Macron aurait nommé une nièce ou quelqu'un de sa famille ou quelque chose comme ça.
On n'en est pas là.
Non, mais c'est pas. On peut pas taxer la France de république bananière. C'est nous dévaloriser nous-mêmes en tant que pays. On n'est pas une république bananière. Après qu'on soit pas content effectivement et que la manœuvre politique, la tambouille politique ne reflète pas la volonté du peuple, ça, on peut, on peut le constater.
Alors maître, qu'est-ce qui vous arrive?
Excuse-moi, mais tu dis n'importe quoi.
Pourquoi dirait n'importe quoi? Qui dit faux, qui dit vrai?
C'est un vrai coup.
Il peut vous rétorquer, vous dites aussi n'importe quoi.
J'accepte la critique. L'esprit de la 5ème République.
Alors répondez à l'arbitre.
Le Premier ministre a toujours été issu du groupe politique qui était en tête des élections législatives. Voilà.
Tradition républicaine.
Personne n'est arrivé en tête. Vous faites quoi?
Tradition républicaine.
Et moi, je me rappelle Emmanuel Macron. Il avait une majorité relative.
Oui.
Hein?
Oui.
Bon, Chirac a été nommé Premier ministre à l'époque de Mitterrand.
Oui.
Michel Rocard.
Rocard, vous avez raison.
Il n'avait pas la majorité. Il avait qu'une majorité relative. Il devait faire alliance avec des centristes.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Pour faire passer des projets de loi. Ce que je veux dire, en fin de compte, c'est un coup d'État démocratique
Donc vous donnez raison à Amine.
Tout à fait, c'est contraire à l'esprit de la 5ème République. Tous les constitutionnalistes vous le diront.
L'Arbi. Vous avez maître les esquisses qui parlent de coup d'État carrément.
Je suis juriste.
Avec.
On ne peut pas être juriste et parler de coup d'État. Les coups d'État, on en a eu ces dernières années dans différents pays. C'est quand quelqu'un vient se saisir du pouvoir par la force et débarquer le pouvoir. Vous prenez ce qui s'est passé.
C'est
la même chose. Après, là, ce qui s'est passé, il n'y a rien eu d'illicite. Qui s'est passé. Il y a eu une tambouille politique, c'est vrai.
L'avocat veut écouter l'arbitre, je crois.
Il veut exercer les droits de l'accusation.
Vous êtes d'accord avec moi que quand même Macron, depuis qu'il est président, il fait ce qu'il veut, quoi.
Oui,
il n'écoute personne. On l'appelle Napoléon. Je suis désolé. Quel journal appelé Napoléon. Macron, Napoléon Ier. Parce que c'est Napoléon, c'est tout. Il se prend pour Napoléon.
Merci.
Personne.
Merci d'être intervenu, l'arbi de Valence.
Avec grand plaisir.
Au plaisir de vous entendre. Blague à part, sérieusement, vous savez qu'ils sont beaucoup à penser comme l'arbi quand même.
Mais qu'il y ait une pensée majoritaire qui ait cette opinion-là, c'est une chose.
Non, mais il est va faux, l'avocat. David Libeski, là, il charge quand même. Il dit coup d'État. Soyez honnête, soyez factuel. Le Blastal, en début d'émission, il n'y a aucun bloc qui sort et qui représente la majorité.
Un coup d'État n'est pas démocratique définition.
Attendez, je vais le coincer.
Là, on parle
Je vais le coincer. Alors, très bien, si on vous écoute parler juridiquement, c'est le FN qui remporte Matignon.
C'est le parti majoritaire.
Donc, il faut nommer Marine Le Pen, premier ou Bardella, premier ministre. Si on vous écoute parler ici.
Au deuxième tour, qui a remporté les élections, c'est pas le parti.
Le parti politique.
En nombre d'électeurs, c'est le RN.
C'est le groupe politique, la coalition.
Coalition,
les
élections. Coalition.
Alors,
le Nouveau Front Populaire.
Quand Chirac gouvernait, c'est RPR du F.
Il est composé de qui?
Une coalition.
Mais maître Libeski dit il est composé de qui, le Nouveau Front Populaire?
Tout le monde le sait, les écologistes, le PS.
Y compris la gauche et la droite. Et ensemble.
Pas la droite. Mais non. La coalition de gauche.
Ah oui, vous parlez de la coalition de gauche.
Je parle de la coalition de gauche. À l'époque, quand Chirac, en 86, a été nommé Premier ministre de cohabitation.
Ils ne sont pas majoritaires.
Il était également issu d'une coalition politique qui s'appelle le RPR.
Ils ne sont pas majoritaires, cher ami.
Ils ont une majorité relative. Rocard, le PS,
même
a une
pas
majorité
relative,
relative.
Même pas relative.
Alors, moi, j'ai une question, parce qu'à l'époque, puisqu'on parle, on fait un peu d'histoire politique française, à l'époque, la coalition RPR-UDF a tenu, d'accord, jusqu'aux prochaines élections. Elle a tenu. Demain, ça veut dire que le NFP explose, comme a explosé la NUPES, comme a explosé toutes les alliances de gauche ces dernières années. Le Premier ministre va démissionner.
Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet,
parce que là, on nous dit que les coalitions.
Non, on respecte.
Mathématiquement parlant, le parti strict au sens où le plus représenté à l'Assemblée nationale, c'est le FN. Pardon, c'est pas un parti.
Le FN, le RN n'a pas gagné les élections législatives. Je te rappelle que c'est une coalition qui a gagné
les s'appelle le Nouveau Front Populaire.
Voilà. C'est une coalition.
On respecte le RN.
Pardon, mais
il a gagné que le premier tour.
Le Nouveau Front populaire, le nouveau Front populaire est arrivé. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Pardon, mais rappelons aussi, puisqu'il ne faut pas avoir la mémoire courte non plus, que le nouveau Front populaire est arrivé en tête à la faveur de désistements de candidats de la droite et du centre et de gauche.
Et de Renaissance. Et profiter en fait à Renaissance que au nouveau Front populaire. Et ça, c'est démontré.
Ça a été démontré.
Sans doute, mais c'est ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu ces retraits-là, on aurait une majorité absolue FN. Et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Non, il
n'y
aurait pas une majorité absolue, je ne suis pas certain.
Mais si, il a raison.
Non, je ne suis pas certain.
Mais mathématiquement.
Mathématiquement, c'était le cas.
Mais si, mathématiquement, cher ami.
Mais non, mais mathématiquement, il y a trois blocs, il y a un bloc, mathématiquement, c'est un peu plus supérieur aux autres.
Des élections, ça, ce n'est pas contesté par personne. Il s'appelle le Nouveau Populaire. Il a une majorité relative, c'est-à-dire il n'a pas la majorité absolue. En fait, c'était à un nouveau Premier ministre du Front Populaire de se démerder, de se débrouiller, autant pour moi, pour constituer des majorités sur ces thèmes.
Un petit tour de table. Je voudrais juste qu'on finisse cette émission avec la mobilisation, vous savez, qui se déroule demain. Forte mobilisation, les organisateurs annoncent quand même plusieurs marches dans, dans toute la France. 150 marches, exactement. C'est le chiffre qui est annoncé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette marche, l'Oblasta, de cette manifestation?
Ben moi, je trouve que c'est dommage que ce soit à la veille de la clôture de la cérémonie des Jeux Paralympiques. On n'en a pas assez parlé. C'est dommage. Et il faut le faire, mais est-ce qu'il va en tenir compte? Il va s'en foutre encore et encore. Il s'en fout, Macron. Donc, allez marcher, marchons. Et puis, il aime qu'on marche, de toute façon.
C'est un marchand, à la base.
Marchons tous.
Mélade au génère.
Je vais être volontairement un peu provocateur, mais je dirais que c'est pas la rue qui décide, c'est les urnes. Et les urnes, c'est vrai qu'elles ont été sollicitées, et le résultat escompté, effectivement, plaît pas. C'est l'endroit de marché qui ne marche. C'est pas la première fois que Emmanuel Macron, effectivement, je rebondis sur la blague, fait marcher du monde, à tous les sens du terme.
Maître David Lébesque.
Alors c'est une mobilisation qui a lieu sur toute la France, c'est pas seulement une mobilisation parisienne,
parce qu'il y a
150 rassemblements. Après, l'inconnu, est-ce qu'il y aura du monde? Ça, on ne sait pas. On verra demain. Mais après, bon, c'est une manifestation qui, je pense, est légitime, qui peut se justifier. Oui,
mais surtout symbolique, on est d'accord. On n'attend rien sur le plan de la démocratie de cette manifestation.
Ça dépendra du nombre. Si, en fait, il y a un grand nombre, je pense que c'est une manifestation.
Ah, il a raison à suivre, quand même, cette histoire.
Qui se poursuivra de samedi. S'il y a une forte mobilisation, je pense.
Attention,
entre nous, enfin, je pense pas que, en tout cas, les premières semaines de septembre sont favorables à des mobilisations de masse, parce que tout le monde est dans la rentrée, tout le monde est dans des sujets nettement plus personnels. On a accessoirement les Jeux paralympiques qui viennent être percutés plus ou moins gentiment par ce genre de manifestation. Mieux peut-être que Michel Barnier, en voyant la mobilisation, si effectivement elle est forte, pourra peut-être se poser la question de nommer telle ou telle personne. Mais entre nous, je pense que ça va être surtout symbolique, et que dans les faits, le légitimiste que je vous suis vous dit que c'est effectivement la rue a jamais vraiment décidé d'un gouvernement.
Oui, ça c'est vrai. Merci, l'histoire le prouve. Merci à l'Oblastin, à bientôt.
À bientôt, Adil, merci.
Oui, avec
merci
autant de bronzage. Je vois.
On
va venir sur votre bateau là, tiens. Mélade Ouchénir, à bientôt.
À très vite.
Maître David Ibisquet, à bientôt. Merci à Solal à la réalisation. Les programmes continuent, vous le savez, tout le week-end sur l'antenne de Beurre FM. Et puis surtout, vous allez retrouver Time Sport et Bilal dès lundi soir, il me semble, dès 20h
d'ailleurs. Ah, il est pas là ce soir.
Non, il a prolongé ses vacances,
Un
petit coquin, ouais.
Bon, les championnats n'ont pas repris, c'est pour ça aussi.
Non, mais en même temps, il a bossé tout l'été.
Il
a bossé tout à la fin. Il y avait les JO, il y avait ceci. Il a charbonné quand même, il était au front. À lundi, avec autant de plaisir, mais surtout, les amis,
on ne lâche rien. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. 18h, 20h, Foot de Sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h-20h pour traiter de l'actualité sportive. Aujourd'hui, calendrier international oblige, on va s'intéresser au continent africain, non pas par rapport à la Coupe du Monde, mais par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, je vous le rappelle, qui se déroulera en fin d'année 2025. Le chamboulement des calendriers, justement, les joueurs montent au créneau, surtout ceux de la Première Ligue, mais comme le coach a toujours une belle phrase, en gros, mon gars, tu touches 1 million d'euros par mois, ferme-la, tu joues, sinon tu dégages. Et il n'acceptera jamais de dégager, il préfère jouer, quitte à crever, ben il va crever. Bon, ensuite, bah, je dis la vérité. Ensuite, eh bien, il faut aussi, mine de rien, tirer un grand coup de chapeau à nos paralympiques, on va dire algériens, marocains, tunisiens. Mine de rien, mais ils ont eu ce qu'on appelle une moisson beaucoup plus intéressante que leurs collègues valides des Jeux Olympiques, on va dire. Sur les, on va dire, des bons pipettes. Voilà, façon de parler, pour ne pas dire autre chose. Et puis, derrière cette actualité, il y a aussi, et je l'avais remarqué ces derniers temps, c'est comme si, quand on ne sait pas quoi faire, quand l'argent tombe comme ça du ciel, ben oui, c'est l'argent tombe, eh bien, on va vous inventer des compétitions. Là, je vais poser quand même la question à mes deux copains de d'émission, parce que eux, ils ont l'habitude de suivre les matchs. Est-ce que à ce rythme-là, vous allez suivre tous les matchs, rester dans vos canapés, à prendre un paquet de chips ou je ne sais pas moi des cacahuètes, du thé, puis à crier comme du temps de la bof génération, c'est-à-dire la génération des années 80. Voilà un petit peu le sommaire qui nous mènera jusqu'à 20h.
Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Bon, à tout seigneur, tout honneur, notre coach national, qui est, bah oui, il est dans le foot depuis sa naissance. Je pense que depuis que sa maman l'a mis au monde, elle l'a envoyé avec un ballon, et jusqu'à l'éternité, peut-être que je le retrouverai au 7e ciel avec un ballon. Bonsoir, coach.
Bonsoir, mon ami Mohamed. Tu as des introductions terribles, franchement. Tu es bon, tu es très bon, Mohan. Ils ne te connaissent pas, c'est dommage, les gens, mais tu aurais fait une carrière d'acteur, toi, de très très haut niveau, moi je te le dis. Non, t'as une belle actualité, là. Hein. Il y a des choses à dire, mais bon, après, on va toujours faire. On parle de ouais. On gagne, on va dire, ah, c'est bon, ou on va dire, bah, c'est pas bon. Mais bon.
Bah, bien sûr. Et puis, franchement, la relève.
Je m'inquiète pour l'équipe de France, là, franchement. Je
m'inquiète. Oui, bien sûr, parce que là, c'est un vrai, vrai gros dossier. Hein. On le verra après. Hein. J'ai repéré, je me suis dit. Mais il s'est passé quelque chose qu'on appelle ça une espèce de scission entre la fin de l'Euro et puis le début de la nouvelle saison. Il y a quelque chose. Même quand un garçon comme Ménian qui monte au créneau pour dire certains se la jouent starlette, ça veut dire beaucoup de choses. À qui il fait allusion, eh ben on va essayer d'en débattre. Et justement, cette génération de joueurs, celui qui la maîtrise, c'est comme il est là chaque dimanche, notre Rambo à lunettes, c'est Sofiane.
Même qui regarde pas dans les yeux.
Bonsoir Sofiane.
Salut Mohamed.
Ça va?
Salut coach, moi je vais très bien.
Ben oui.
La série de remarques
Non, il y avait une bonne analyse sur notre ami Mignon.
Ah, moi je t'ai dit, moi je pense que Mohamed, voilà,
il est bon, hein.
Vladimir Poutine, il peut raser Paris avec un missile nucléaire, il va te faire les mêmes introductions, où il va te caser son enfance à Tixirt et la disparition des ours dans
ben
la
oui, des ans. C'est exactement ça, bah, bravo Sofiane. Non mais Sofiane, il me connaît.
Il est bon
aussi. Ah, oui,
il est bon sociologue.
Ah oui, pour ça que j'ai dit notre.
Psychologue encore, mais sociologue. Oh. Il y a des contextes.
J'ai des outils dans ma besace, ça sert.
Alors, justement, puisque là, on en profite, on est sur cette fameuse semaine sportive. Avant de. Parce que l'Algérie, je la laisse en deuxième partie. Parce que, je vais commencer par ce qui nous inquiète le plus. Nous sommes en France et la France nous inquiète. Hein.
Fou de sport. La semaine sportive.
Bon, je pense, Sofiane, comme coach, t'as vu un peu. Ce qui s'est passé avec ce match France-Italie, on a dit, bon, l'Italie, ah, c'est pas top. La France, oui, c'est toujours la France, elle est dure à jouer, etc. Mais entre la fin de l'Euro et là, le début de la nouvelle saison, pour la Ligue des Nations, je précise, que s'est-il passé? C'est quoi C'est quoi ce couac du jour au lendemain, Sofiane?
Non, mais
c'est brutal.
Ça avait déjà commencé avant. Moi, je me rappelle l'année dernière, le match amical en Allemagne. Pareil, la France perd le match 2-0 et c'était on voyait déjà que c'était compliqué. La Coupe du Monde aussi qu'ils font au Qatar, ça tient sur les miracles d'Mbappé, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose déjà. Moi, je pense que ça y est, Didier Deschamps, je pense qu'il arrive au bout de l'histoire. Je pense que même déjà, moi je le sentais déjà après l'Euro 2021, quand ils sortent en 8e contre les Suisses, je sentais que. Bon, pour moi, il fallait qu'il arrête, mais. Il y a un truc qui est cassé. Après aussi, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est dur de rester aussi longtemps comme ça, sélectionneur. Et en plus de ça, il y a aussi un élément qui est matériel, qui est factuel. C'est que, comment dire, il y a le renouvellement de génération, c'est pas vraiment fait. Quoi. T'as pas vraiment. Je vois les joueurs de l'équipe de France, là je regarde le résumé. En plus de ça, t'as Mbappé qui est la star de l'équipe, qui est pas en forme. Mais à côté de ça, les autres joueurs, tu sens que le renouvellement s'est pas fait, à tel point qu'on est parti rappeler Kanté qui joue en Arabie Saoudite. Ça veut dire que voilà, on touche aux limites là de ce que la France a donné, quoi.
Mais du coup, je repense comme cette question. Moi, j'oublie pas ici la phrase qu'avait sorti notre ami Jamel Sandjak quand je l'ai eu en interview. La Ligue de Paris est la première ligue au monde avec celle de Rio à fabriquer, à être ce qu'on appelle une machine à fabriquer des joueurs. Et comment se peut-il que ce pays qui fabrique autant de joueurs aujourd'hui n'arrive pas à sortir la crème des crèmes pour l'équipe de France? Comme tu l'as dit, Sofiane, on voit bien effectivement que le renouvellement s'est mal fait ou il n'a pas été jugé correctement avant de nous offrir des joueurs qui tiennent la route, quoi. Parce que là, ce que j'ai vu là, je suis comme toi.
Oui, mais Mohamed, tu lèves un problème de formation. Le problème de formation, c'est des facteurs humains. C'est pas de la marchandise. C'est pas des bouteilles, des fruits. C'est des hommes. Avoir un homme bon, deux hommes, une équipe bonne, très bonne, ça se joue à des détails, des très peu de choses. Très peu de choses. Tout le temps, ça se joue à des très peu de choses. Ça, ils le savent, les entraîneurs le savent, ça se joue toujours à très très peu de choses. Après, les très très peu de choses, ils basculent toujours chez les bons, les meilleurs. Le problème, c'est que le problème de l'équipe de France, pour moi, c'est encore un avis personnel, c'est aussi lié à la beauté de choses. Tu connais? Le ventre, il est plein.
Oui.
C'est ce qu'on dit.
Oui, après, tu vois.
Le ventre, il est plein. Quand le ventre est plein, tu peux dire ce que tu veux. C'est plus le même homme. T'es plus le même homme. Tu fonctionnes comme le pouvoir. Quand tu détiens le pouvoir, c'est pas comme si quelqu'un qui veut aller au pouvoir. On n'est pas dans le même monde. On ne vit pas les mêmes choses. Et un homme comme Deschamps, eh ben, il perd le dixième. C'est des petites choses, c'est des petits détails qu'on voit peut-être pas ici. Mais on sent que l'équipe ne démarre pas. Il n'y a pas cette fameuse flamme qui se met. Après, t'as une génération qui est portée par Deschamps, qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Ils l'ont gagné, avec les moyens qu'il y avait. Il refait finale derrière. Et voilà. Et là, aujourd'hui, eh ben, mon coco, c'est plus la même, parce que si tu t'approches de lui, tu lui dis bah écoute, déjà on s'en fatigue, faut t'arrêter, qui va lui dire ça? Et je peux faire finale, il fait finale, et là on vient sur une Ligue des Nations, il a, mais là on sent quand même, je l'ai vu aussi sur le banc de touche, j'ai senti quand même l'œil, la flamme à la
fin. J'ai vu ça.
Ah, c'est un.
Ouais, j'ai vu ça.
Il n'y a plus le. Parce que le ressort qui va le projeter devant, qui va le renvoyer ce qu'il était, il y a ce qu'il a besoin. Parce que les hommes, c'est comme tout, faut les gérer, faut les gérer, les hommes. Après, t'as le petit ton qui passe, et le mec passe, et ça bascule, et t'as le petit ton, je parle l'intonation, qui ne passe pas, et comme par hasard, le joueur ne sort pas. Et t'es là-dessus. Et celui qui est capable de faire bouger Mbappé aujourd'hui, il faut qu'il vienne me voir. Parce que là, sur ce que je vois là, ben, il va rentrer dans une grande léthargie longue avant qu'il comprenne, se remette en place. Donc, cette saison, elle est morte, c'est clair pour lui. Mais il va se réveiller l'année prochaine, il va revenir. Et c'est pour ça qu'on dit que les management, dans le management, à un moment, les grands présidents disent, voilà, ils sentent avant que ça arrive. Avant que ça arrive, ça.
Oui.
Pour entretenir la dynamique de l'équipe. Et là, tu l'as dit tout à l'heure, la dynamique n'est pas là. L'œil du tigre n'est plus là. On le sent. Et quand il te dit, mais non, il y a des starlettes, non, c'est parce que il n'y a plus le guide qui pousse les joueurs pour être là. Là, tu fais que du remplacement de joueur qui vient, tu sors un joueur, tu vas nous voir, ah, c'est qui, c'est un nouveau, Olivier, c'est qui, oh, lui, ah, vous avez vu Bracoman, là, je sais pas, comment, Bartoman,
Barcola, oui.
En train de nous sortir, rendez compte, le grand joueur, il a fait 3 matchs, le mec, 3-4 matchs, tu compares avec Mbappé, qui en est à, je sais pas combien, mais on te fait des comparaisons pour dire, vas-y, voilà, le problème, il est là. Ben, on va voir si c'est ça, et on va bon, on va le voir.
Après, c'est ça, Nasser, aussi, ce que tu dis. Pour moi, c'est vrai que c'est une raison évidente.
Ouais.
Quand tu règnes, bah, t'as les autres équipes aussi qui te voient, aussi, qui veulent aussi dans la division venir te taper, tu vois.
Oui, c'est clair.
Et c'est très très difficile, surtout en football, parce que dans t'as les sports où, par exemple, la suprématie américaine en basket, personne n'a réussi à la toucher pour l'instant. Mm-hmm. Mais en football, c'est des cycles, quoi, ça tourne à chaque fois.
Il y a moins de décisions en basket.
Ouais.
Et plus de certitude. Mm-hmm. C'est avec les mains que tu joues. Et quand tu fais tourner la boule pour la faire perdre, c'est rare. Hein, au football, la certitude, c'est le pied. Donc avec le pied, tu peux le perdre à tout moment dans le ballon.
C'est vrai.
Et donc, t'es dans ce coup-là. Mais là, tu vois, moi, je regardais les Italiens. Et j'étais content parce que un football que j'apprécie depuis très 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 très
ça
très
je le sais
eux les Argentins pour moi il n'y a pas meilleur bref et bah tu vois voilà ils tournaient une vraie leçon du football italien et tu vois et n'oublie pas que Deschamps est élevé par le football italien hein.
oui
moi j'ai eu la chance de discuter avec lui sur quelques trucs il était d'accord avec moi là-dessus et là aujourd'hui ben tu vois tu pas que tu payes mais ah, on va pas souhaiter le mal à Deschamps, c'est pas bien, mais bon, on sent que, bah, je sais pas, peut-être un renouvellement au staff, le truc, je sais pas.
Et puis même, non, mais tu l'as dit au début, tout à l'heure, la qualité des joueurs. Il n'y a pas de très grand. Bah, l'équipe de France aujourd'hui, c'est pas une très grande équipe.
Après, ça, c'est un constat que tu peux faire sur beaucoup de sélections. Moi, j'ai l'impression que mondialement, t'as plus vraiment de très grands joueurs dans toutes les équipes quoi. Maintenant tu sors du joueur un peu standard. Et il est très très bon, t'en as certains qui font même pas les compétitions internationales. Genre Haaland par exemple fera jamais lui gagner avec un Norvège, il a peu de chance de gagner une Coupe du Monde ou de faire une Coupe du Monde.
C'est ça.
Donc
ce que tu veux dire Sofiane, aujourd'hui les joueurs en catégorie, on n'en a plus. Parce qu'on a connu des époques avec des Cristiano, avec des Messi, etc. Mais aujourd'hui les joueurs hors catégorie, on l'a pas.
De moins en moins. Après, t'as des joueurs qui font des coups d'éclat sur 2-3 ans qui disparaissent. T'as beaucoup ça sur les dernières années. Mais c'est vrai qu'effectivement, t'as moins de joueurs. Après, je sais pas, ça c'est peut-être aussi dû à l'évolution du football, où t'as de plus en plus de matchs, où maintenant c'est la condition physique joue beaucoup. Je sais pas à quoi c'est lié exactement, mais les playmakers, les joueurs qui font jouer ou les joueurs qui font la décision, t'en as de moins en moins.
C'est vrai,
c'est une réalité. Et le football français échappe pas à la règle. Après, sur la formation des joueurs, n'oublie pas qu'en 2018, quand la France est championne du monde, t'as beaucoup de joueurs aussi qui finissent leur cursus de formation à l'étranger.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Là, c'est aussi ça. Pogba est à l'étranger, Griezmann aussi. T'as beaucoup de joueurs qui sont formés, qui commencent en France et qui font de la post-formation à l'étranger. Oui. Donc là aussi, t'as moins. Regarde, t'as beaucoup moins de grands joueurs français dans les grands clubs. Européen.
Ouais. Mais c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'avant, tu prenais n'importe quel club de première ligue ou de Bundesliga, même en Italie, tu trouveras toujours quand même un Français qui a quand même 10 niveaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la liste s'y rétrécit. Rappelle-toi, coach, qu'est-ce que tu me disais? Pour être en équipe de France, il faut avoir le niveau Ligue des Champions. Eh ben, je suis désolé, aujourd'hui, c'est plus le cas.
Ouais. Mais moi, je réfléchis à autre chose. Je pense certainement. Le problème, il est lié aussi à la nature propre des joueurs, des individus. N'oublie pas que l'équipe de France était avec des contradictions dans l'équipe. Tu avais le gardien de but, Griezmann, Giroud. De l'autre côté, tu avais Pogba, plus ou moins. Tu avais Mbappé avec l'autre. Tu avais des groupes. Il y avait une tension entre eux. C'est ça qu'on cherche. C'est pas des béni oui-oui. Là, t'as 11, 14 béni oui-oui qui disent oui à tout. T'as plus d'opposition entre eux.
Ouais.
Qui crée le lien entre eux, le lien fort. Parce qu'il faut gagner le match ensemble. Et ça, c'est hyper important. Hyper important. Après, on le dit pas, on le cache pas. Et notre ami Didier Deschamps sait faire là-dedans. On sait dans ce sujet. Giroud, l'histoire de Giroud, Benzema, l'histoire de l'autre. On entretient un peu cette émulsion. Et hop, ils sont sur le terrain, tu les vois, ils sont là. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas vu moi une histoire. J'ai rien vu du tout, moi.
Si. Dans le vestiaire, ça a chauffé.
Ouais, bon, après, l'autre, ils vont pas le reconnaître, ils vont lui dire, écoute, il y a bêtise, toi.
Ouais, c'est ça.
Tu dis quoi, t'es qui, t'es quoi, t'es arrivé, t'as 6 matchs, tu vas dire. Mais ils sont comme ça, les mecs, attention, hein.
D'accord.
Diego, il est là, oui. Je vois pas, moi, un leader ou des leaders, parce qu'il faut des leaders, et chacun avec sa véracité dans ses propos. Non, tu vois des mecs qui, ils courent, ils jouent, ça joue, ça court, mais il n'y a rien de plus, hein. Par contre, l'Italien, j'ai vu une très très belle équipe.
Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Tactiquement,
physique, ça court.
Ouais.
Putain.
Ouais. Ça revient. Ouais. On marque une première pause et on se retrouve dans un instant.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Bon, avant d'entamer la partie africaine, on va faire un petit saut du côté du standard avec notre ami Houari. Bonsoir Houari.
Ah, bonsoir tout le monde.
Merci. On t'écoute.
Déjà, un grand bonjour à monsieur Sofiane.
Salut Houari.
Ah, Sofiane. Ah oui. D'accord, ok.
Et à Nasser.
Ouais.
Et à Nasser, pardon monsieur.
Il n'y a pas de souci, mon frère.
Vous avez entamé la partie africaine.
On va l'entamer là justement.
D'accord. De quel sujet vous voulez parler du coup?
Ah bah à ton avis la partie africaine, il y a eu une première journée de Coupe d'Afrique des Nations, donc
l'Algérie.
Forcément, bah l'Algérie ça arrive en tête parce qu'on l'a vu. Ensuite on aura le Maroc et la Tunisie, ça va de soi.
Ah moi je veux bien vous parler de l'Algérie.
Vas-y.
Écoute. Ah, bon, on t'écoute, mais après on va analyser. Vas-y, Houari.
Ah, pas de problème. Bah, écoutez, mon avis, il est très simple. J'ai un gros problème avec le sélectionneur.
Ah, monsieur Petkovic, ouais.
Ah, franchement, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas ses joueurs. Il met des joueurs à leur poste, mais c'est pas vraiment leur poste.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'il voit où est-ce qu'il joue dans les clubs. Pour pouvoir les mettre directement dans l'équipe, aucun schéma tactique.
On continue. Oui, non, mais c'est exactement ça. Enfin, nous, on l'a remarqué. On est quand même observateur du football. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à leur bon poste pour avoir ce qu'on appelle un meilleur rendement.
C'est vrai.
Ouais.
Ça, c'est exactement ça. Mais de toute façon, la base du football, que ce soit en Afrique ou en Europe, c'est le milieu de terrain. Tant que le milieu de terrain algérien ne sera pas au top, en standard européen, parce que si je me trompe.
Ça coupe au Brio
Chacal.
Ouais.
C'est un joueur qui joue dans le championnat africain.
Ouais. Et bah, de toute façon, tout le là. Oui, vas-y.
Non, je vous écoute.
Ouais, je disais que aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de produits importés. Tous les joueurs sont issus. Oui, bah, parce qu'on a que ça. Mais le problème, c'est que quand tu ramènes des joueurs, quand tu convoques des joueurs, quand tu es un sélectionneur et que tu n'établis pas de relation avec les clubs qui te donnent ces joueurs-là, forcément, tu te retrouves des fois dans des situations un petit peu maladroites. Bon, c'est le cas notamment de la convocation de comment ça s'appelle de Amora, le club allemand a mis la pression pour qu'il ne joue pas. Finalement, il ne jouera pas les deux matchs, quoi.
Bah, le problème de ça, c'est que déjà les clubs ne nous prennent pas sérieux. Nous sommes un pays africain, la qualification de la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique n'est pas pris au sérieux dans notre continent. Donc c'est pour ça que dans notre effectif, je sais que même dans le staff,
oui,
il y a des gens européens,
oui, c'est vrai,
qui doivent faire ce genre de transition. Mais ces gens-là ne font pas leur travail parce que je vais vous dire la vérité.
Oui.
Pour moi, ils sont de passage.
Ah bien sûr. Oui. Quand on vient dans une sélection, généralement, c'est un passage relativement court, surtout en Afrique. Hein. Tu tiens pas longtemps.
À part pour monsieur Deschamps, apparemment.
Ouais, bah, Deschamps, il avait eu quand même un long bail parce que quand tu regardes le parcours de Deschamps, joueur, entraîneur, sélectionneur et sélectionneur, parce qu'il était aussi entraîneur de club. Donc, on va dire que le bilan parle pour lui. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein.
Pourquoi justement, alors il a gagné une Coupe du Monde, on est d'accord?
Oui.
Donc est-ce qu'il peut avoir l'humilité juste par rapport à ça?
Non. Bon, on a déjà dit ça. Bah, il a gagné, il a été finaliste. Bah, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, après. Après, à un moment donné, l'être humain, c'est un être humain, c'est-à-dire que quand tu n'as pas une bonne génération, une bonne relève, etc., et que ton discours est toujours peut-être le même et que tu ne te remets pas en cause, bah, tu finis par lâcher, quoi. C'est tout. Comme on dit, la branche, elle finit par tomber de l'arbre.
Bah, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, une petite parenthèse d'essence, si vous voulez bien.
Oui.
Très simple. Tout le monde dit que la France a une génération dorée.
Ah, pas du tout. Ah non. ça.
Bah, tout le monde joue dans les plus grands clubs européens.
Ah bon, avec Sofiane, avec coach, c'est ce qu'on dit là. Tout sauf ça, justement.
Bah, pourquoi?
C'est quoi les grands clubs européens là? Vas-y.
Si on fait un petit mix, on voit le Real Madrid.
Oui.
On voit le Paris Saint-Germain.
Oui.
On voit le Milan AC.
Oui.
C'est quand même des clubs qui jouent à un très haut niveau.
Oui, mais ça ne te fait pas une sélection, Wari.
D'accord.
C'est ça le problème. Tu peux avoir 11 joueurs qui viennent du Real ou du Barça ou de, je sais pas moi, de Arsenal, de Manchester City. Ça ne veut pas dire qu'ils vont te former un groupe, hein, ça ne veut rien dire.
De toute façon, le plus important dans une équipe nationale, ouais, c'est le milieu de terrain. Ah. C'est le meilleur exemple, c'est la Croatie.
Ouais.
Défensivement, c'est nul. Au niveau de l'attaque, c'est pas grand-chose. Et le milieu de terrain, c'est réellement ce qui a fait l'équipe.
Ah,
alors qu'en équipe de France, le milieu de terrain, c'est vraiment pas ça.
Ah, oui, il y a eu une génération en France de milieu de terrain, c'est vrai.
Où allez-y?
Bien,
Il y a le gardien aussi, non?
Dans l'équipe de France.
De manière générale, dans le football, le gardien, ça compte aussi?
Bah, en fait, il y a une juridiction Pep Guardiola.
Eh, oui.
C'est-à-dire maintenant, à cause de Pep Guardiola, le gardien peut partir réellement comme un joueur de champ, en fait.
Il doit apprendre à jouer au pied.
Il doit apprendre à jouer au pied alors que le profil de poste d'un gardien de but, c'est d'abord de jouer avec les mains.
Et d'arrêter les ballons.
Ouais, c'est exactement ça.
Ah oui. Oui.
Donc après le football, ça change, mais bon, tant qu'on n'aura pas. Je veux pas être méchant. Hein. Mm. Mais la formation française pour le football, c'est si tu es grand, costaud, tu as de la chance de jouer avec des champs.
Ben oui, c'est un critère, hein. Oui, grand et costaud, oui, c'est un critère.
Ah, mais c'est un critère pour le rugby, pas pour le football. À un moment donné, faire la part des choses.
On a besoin de techniciens, c'est ça que tu veux dire?
Bah, vous savez, moi, je vais vous poser une question.
Oui, oui.
Si vous mettez un Pep Guardiola en équipe de France,
oui.
Est-ce que vous pensez que Guardiola peut effectuer le même jeu qu'à Manchester City?
Ah, pas du tout, pas avec ce groupe-là.
Alors pourquoi justement?
Ah, c'est le coach qui doit répondre. Hein,
ah, bah oui, alors coach, à toi la réponse.
J'aimerais avoir la réponse de Nasser.
Ouais, bah oui, parce que moi je suis pas entraîneur, hein, je suis animateur. Allez, coach.
Ta question est compliquée. Hein. Nous, on est toujours dans la notion des transferts. C'est-à-dire que toi t'es là, il est de l'autre côté, quand il est de l'autre côté, il est là. C'est-à-dire que Pep Guardiola, qui a moins de chance, tu arrives à te l'imaginer qu'il vient en équipe de France. Déjà, pour qu'il vienne, c'est impossible. Et il va faire autrement. Peut-être pas comme Deschamps, mais il fera autrement.
Mais
il choisira peut-être d'autres joueurs.
Si Zidane vient, il va faire différemment.
Ah, c'est clair. Il n'a pas la prestance. Il n'a pas Zidane, ce qu'il a déjà lui. Ça, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, les joueurs vont courir un peu plus. C'est vrai, Zidane, hein, ouais. Les joueurs courent beaucoup parce que je suis Zidane, il le sait.
Ah, d'accord.
Ah, d'accord. Donc, en fait, le problème, c'est Deschamps.
On va pas dire ça, mais maintenant sur le temps, oui, ça devient. Ça ne l'était pas et ça le devient.
C'est vrai,
Ça n'était pas une période où on gagnait. Et là aujourd'hui, les joueurs tout doucement, ils vont aller chercher l'entraîneur. Ils commencent à titiller. T'as vu, aujourd'hui on parle de la qualité de jeu, comme si ça existait ça. Mais bon, ils en ont fait un critère. On dit le jeu, système de jeu, regardez, cours, ils racontent des conneries, quoi. Quand ils veulent tuer le chien, on dit qu'il a la rage. Et quand on veut tuer des chiens, on dit que son système est pourri. Et lui, il a gagné Coupe du Monde, finalisé la Coupe du Monde. Vous rigolez, quoi, les gars? Vous avez ce palmarès là, c'est impossible.
Le problème de Deschamps, c'est que pour moi, et ça reste que pour moi.
Dis-moi, c'est pour toi surtout. Tu le gardes pour toi.
Voilà. Alors, pour moi, ce n'est pas Deschamps qui a ramené l'équipe de France en finale. Contrairement à Pep Guardiola, c'est lui qui a ramené son équipe pour les Ligue des Champions.
D'accord, c'est possible.
Ce n'est pas la même chose. Il y a une nuance.
C'est le chauffeur du bus.
Non, vous savez, je le compare un peu comme les animateurs de. Les écolos.
Ouais.
Les colonies, pardon.
Ouais.
On prend un ballon, on prend les joueurs, on jette. Allez, le plus fort, fais ce que tu peux. Inch'Allah, ça passe.
Ouais. Ben oui, ben ça c'est beaucoup.
Ça c'est dans les 50, ça.
Ouais. Ah, plus maintenant.
Ben, c'est chanté un mec à l'ancienne.
Ouais, mais aujourd'hui c'est scientifique, Zamar, attention.
Ouais, scientifique, ça, nous on a des yeux, on voit. On voit que le jeu est catastrophique.
Ouais, c'est vrai.
Personne ne peut le nier. Ça, on pourra rien y faire, il restera à la tête pour la France.
En fait, c'est vrai que, Wari, honnêtement, moi, quand j'ai vu le match, je n'ai pas été emballé, mais quelque part, j'ai remercié l'Italie d'avoir quand même donné ça, quoi. C'est extraordinaire. Parce que l'Italie, elle nous a montré autre chose.
Et c'est manger une leçon de football par Spalletti.
Ouais, oui, là, c'est Spalletti, là.
Derrière, le Catenaccio, comme à l'époque.
Ben oui.
On s'est dit, la génération italienne, c'est pas trop ça. Il n'y a pas de nom connu. Erak, 2-0.
Ouais. Ok.
3-1, pardon.
Merci, Wari, pour ton intervention.
Ah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, tout le monde.
Merci, bonne soirée.
Salut, Wari.
Bonne soirée, merci, salut à tous, gars.
Merci. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors, coach.
Dis-moi.
Voilà, merci de te rapprocher de ton micro. Je sais qu'il il fait chaud dans le studio. C'est pas grave, nous allons perdre 5 kilos avant de manger ce soir.
Ouais. 5 kilos. On boit de l'eau, surtout.
Oui. Bon, alors, je continue. Sujet maintenant africain. Juste un petit peu avant la pause, on va commencer à l'aborder et ensuite, on y va.
Côté Afrique.
Eh oui, première journée éliminatoire de la CAN 2025. Je crois que ça avait démarré déjà dès jeudi. En tous les cas, on a regardé le match Algérie-Guinée-Équatoriale. Il y a du bon et du moins bon. Bon, l'Algérie gagne au final 2-0. Des buts signés Oussama Aouar, parce qu'il y avait quand même, mine de rien, une belle frappe de Riyad Mahrez que le gardien n'a pu que repousser. Et puis, pour finir, c'est un long raid solitaire de Damien Gouiri. Il est là pour mettre le deuxième but. Revenir aussi, Nelasser, sur ce pénalty raté par Riyad Mahrez, qui n'a pas l'habitude. J'ai jamais vu Riyad tirer comme ça, quoi. Lui, quand il tire, c'est à mi-hauteur, mais une balle qui va au-dessus de la transversale, c'est pas lui. Il y a quelque chose qui a manqué dans son geste.
Non, moi je pense pas. De façon de tirer, il a tellement.
Parce que de toute façon, le gardien était battu, on le voyait bien.
Oui, mais.
Après, la tirade, ça arrive.
Oui, je dis pas le contraire. Forcément, oui.
Il veut lever le ballon, simplement. Parce que quand tu lèves le ballon, quand tu es à hauteur d'homme, à mettre en dessous la transversale, ça rend sûr.
D'accord.
Sûr. Donc il a voulu prendre cette option-là. Mais bon, après. T'as vu, ça n'a pas empêché après de faire.
Dans le match, j'ai trouvé beau, mon assiette.
Oui. Ah non. D'ailleurs, en deuxième temps, il a été meilleur. Hein.
C'est lui qui crée tout, c'est lui qui fait les décalages. Moi, à chaque fois, c'est. Dans le jeu, je l'ai trouvé très bon.
C'est ça.
Et je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Riyad jouer comme ça en équipe d'Algérie.
Un petit peu mieux.
Ouais. Il y a du mieux, hein. Il y a du mieux.
Du mieux, mais bon, après, sur la prestation d'ensemble, tu as posé beaucoup de questions. On a cru qu'on avait pris le. L'équipe de Guy, là, je ne la reconnais même pas. C'est plus l'équipe qui a battu l'Algérie il y a deux ans, ça.
C'est vrai.
Rien à voir. Hein.
Ouais.
C'est qu'il y a deux ans, elle était costaud. Hein.
Ouais.
Là, ce que j'ai vu, le mec ne fait pas trois passes, il ne les faisait pas, les mecs. Il faut arrêter l'équipe nationale, en plus.
Oui.
On aurait cru dans les années 70, le football africain. Là. Vraiment, quand je suis surpris, j'aime tellement ça joue. Côte d'Ivoire, Zambie, tu vois, les matchs là. Marc Gabon, là, tu vois du jeu.
Ouais.
Bon, maintenant, dans les plus, moyens, plus, on est capable d'exister. Mais bon.
Après, moi, je trouve que c'est le genre de match que ça fait 3 ans qu'on les voit, quoi.
Mmh.
Tu reçois chez toi, dans des matchs qui comptent pas, parce qu'il y a 5 matchs derrière, donc c'est pas des matchs couperés.
Ça
va, t'es pas terrible, mais ça passe.
C'est ça.
Bon, il n'y a rien de. Franchement, moi, c'est la prestation, je vois pas de.
On va développer tout ça juste après cette seconde pause, parce que je dois l'envoyer maintenant. Et puis, nous, ça nous permettra également de respirer un peu pour attaquer le volet de ce match Algérie-Guinée-Équatoriale. Je vous rappelle, l'Algérie avait gagné 2-0. Et que dans l'autre match, c'est le Libéria qui a fait match nul au Togo, 1-0. Donc, ça veut dire que. Je vous rappelle que le principe de cette CAN, tout se joue sur 6 matchs. Et sur un mois et demi, grosso modo, à la fin de l'année, on aura terminé avec les éliminatoires de la CAN 2025.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM.
Allez, on reprend pour cette troisième et dernière partie de la première heure d'émission. Je vous le rappelle, nous sommes sur le calendrier international, avec notamment ce fameux match qui a opposé à Oran l'Algérie à la Guinée équatoriale, comme le disait coach. On n'a pas reconnu cette Guinée il y a quelques années. On dirait que c'est plus la même équipe. Après, il y a quand même la serre de bonnes petites choses dans cette sélection algérienne, même si il y a des joueurs qui ne sont pas encore en forme, d'autres qui arrivent. En tous les cas, sur la notation, encore une nouvelle fois, celui qui a on va dire qui a été un petit peu l'homme du match, parce qu'il était quand même présent, c'est Rami Belsebaïni, après sa grave blessure. Et d'ailleurs, il n'a pas pu disputer la finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Rami revient et c'est en quelque sorte le patron de la défense. Ce qui a fait, par contre, une semaine auparavant, quand on l'a vu, Aïssa Mandi complètement cramé contre le Paris Saint-Germain, on l'a retrouvé à Aïssa malgré tout correct. Ça veut dire, Nasser, que là aussi, on est sur un chantier permanent. Toi qui a été sélectionneur, quand on est, quand on dirige une sélection comme le fait Deschamps, donc tu es tout le temps dans une espèce de chantier de renouvellement, sans pour autant perturber les équilibres d'un groupe, quoi.
Oui, oui, oui. Mais bon, c'est compliqué de donner comme ça des avis sur des joueurs individuellement, de dire oui, là, tu es bon, pas bon, lui, bon, pas bon, parce qu'on le voit
c'est juste des sur des prestations. Ouais, voilà, on parle de prestations, attention.
Ouais, sur le plan tactique, j'ai trouvé très faible. Ouais. Sur le coup de pied arrêté, on n'a pas été extraordinaire. Mmh. Aussi bien sur le plan défensif, on l'a pas été, mais sur le plan offensif, on l'est. On est sur des à-coups de joueurs. On est sur des à-coups de joueurs. Parce qu'on a des joueurs qui ont la capacité à se projeter, à aller vraiment de l'avant. Et ça, c'est dans notre ADN, à nous, les Algériens.
D'accord.
Et sur le plan offensif, on sait faire des choses. Après, sur le plan défensif, sur le plan de la gestion du match, c'est pas la même. Ouais. Parce qu'on a toujours senti que cette équipe-là pouvait revenir dans le match sur n'importe quoi. T'as vu le moindre ballon, ouais.
Oui, oui, c'est ça.
Ouais. La certitude, elle n'est pas là. Elle n'existe pas.
Alors, après je me permets. Oui. Parce que t'as vu, comme Mohamed, il a parlé avant. Parce que d'habitude, Mohamed, il attend qu'on parle et il dit ce qu'on dit, tu vois. Comme il a donné son avis, moi, je te dis le truc, c'est que la défense centrale de l'Algérie, elle n'a pas été mise en difficulté du tout dans le match parce qu'il n'y avait pas d'attaquant en face.
Ouais, ouais.
Donc, en fait, tu peux pas juger de la prestation des joueurs parce que tu n'avais personne en face pour mettre à défaut cette défense centrale. Pareil pour le gardien de but. Moi, le gardien de but, je trouve, franchement, faut dire, moi, je dis mon avis. Moi, je trouve que, bref, c'est moyen. Bon, on va faire avec. Après, pour le reste, tu fais avec. Après, moi, quand même, franchement, la serre. Et Mohamed, il y a quand même, moi ce qui me fait sourire, mais c'est la jaune jaune, c'est que l'équipe d'Algérie, c'est devenu l'équipe de recyclage du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Tu recycles que les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui n'ont pas percé à Lyon, là, Benzia, tu récupères Aouar, tu récupères. Et c'est quoi cette équipe Nasser? C'est moi, je. Mais Ben Rahma qui a rejoint aussi le.
Oui.
Moi, j'ai toujours plutôt aimé ce joueur, mais en super remplaçant, quoi. Je trouve que il a des qualités, mais moi, je trouve quand même que.
On n'a pas de. Mais après, on a que des seconds couteaux, Sofiane. On n'a pas de remplaçant à ces joueurs aujourd'hui. C'est terrible ce que je dis là. Alors,
je dis
une vérité, oui. Comme tu as parlé du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Sofiane, je suis d'accord avec toi. Mais on n'a pas mieux. On fait quoi?
Non, mais le problème, c'est.
On n'a pas, pas de plan B.
Non, je ne suis pas là-dessus.
Ouais, on a beaucoup de joueurs là, actuellement qui arrivent. On a des 20, 21 ans. Armoula,
oui.
Ben Ahmad qui arrive.
Chaïbi qui n'a pas été
arrivé. Oui, c'est vrai ça.
Daoui qui ne joue pas. Moi, je pense qu'il pourrait être une alternative.
Complètement. Et ça n'a pas été fait depuis 2 ans. Donc, ce que tu dis, c'est ressenti. Tu sens qu'il n'y a pas. T'es encore avec Bouncha devant. Hein.
Oui.
Bonjour, n'est pas le sanglier, le taureau comme il était il y a.
Ah, pas du tout. C'est pas le même. C'est vrai, c'est pas le même joueur.
Voilà. Ah oui, lui, comme tout le monde, comme toi, comme moi, comme lui. Donc on est dans des registres de joueurs qui donnent l'impression qu'ils jouent encore. Bref. Maintenant, est-ce que le redoublement ou le dédoublement des joueurs au poste a été fait. Je pense pas.
Mais justement, c'est ça qui manque, Nasser.
Oui, et tu n'as pas les joueurs que tu avais une période. Ouais. Avant, t'avais Karim Viani, t'avais des joueurs là. Ouais. Et là, tu voyais que c'était du costaud, tu le sentais. Ouais. Là, maintenant, t'as des joueurs, tu regardes Ziruki. Ouais. On plaisante ou on rigole encore? On continue à plaisanter, hein. Bon, moi, j'aime bien le garçon, je sais pas, j'irai contre lui. Mais sa prestation, tu l'as vu, non, en fin de match, quand le mec se retourne derrière lui, il l'a fait son plein, et lui, abandonné, il a sauté avec le pied, il n'en voulait plus. Oui, c'est un, mais c'est. Et là, le problème, ouais. Comment on fait, les gars?
Ziruki, Aouar, tu vas faire entrer Zorgan à la fin du match.
Ouais, voilà. Ouais. Et Benacer, il est parti.
Ouais.
Il est parti de la.
Oui, ça y est.
Ouais. Alors, c'est pourquoi?
Contrat.
Comment ça?
Parti de Milan AC, tu veux dire? Ou de la sélection?
Non, il a quitté le rassemblement.
Oui. On a parlé de blessures, comme toujours. Les blessures diplomatiques sont très nombreuses aujourd'hui.
Ah oui, il faut aller voir le président de la fédération qui gère ça.
Parce que si tu as. Imagine, Nasser, je m'arrête deux secondes. Le prochain match, il est au Libéria. Déjà, puisque le club allemand du VFL a mis la pression sur la fédération, donc Amoura ne joue pas.
Non, ça n'existe plus.
Attends,
les dates FIFA sont faites pour enlever tout ce que tu dis là.
Oui.
Ça n'existe plus. Le joueur, il vient. Si je veux le faire jouer, je le fais jouer. C'est pas le club qui a beau, c'est plus ce temps-là. Ouais. C'est il y a 30 ans. Ouais. Maintenant, il vient, il est bon, il est apte. Les médecins le voient apte, il joue. S'il veut l'entraîneur. Ouais. Sinon, il deal avec lui. Mais il n'y a pas d'histoire de le club intervient au problème. C'est fini, ça.
Ouais. Ouais, mais comment c'est peut-être qu'on a autant de blessés? Parce que Aït Nouri, blessé. Alors, allez, je prends. Amoura, Aït Nouri, Benacer, Mahrez. Boudaoui qui est blessé.
Non, bah, Boudaoui, je crois que lui, c'est juste, il ne veut pas le faire jouer. C'est...
Non, Boudaoui était blessé à Nice déjà.
Ah non, il jouait en début de saison.
Oui, non, mais là, c'était quand il avait marqué, quand c'était contre Rennes, non, quand il a marqué le but. C'est juste après l'action, il s'est blessé.
Il est venu pour
constater la blessure.
Et puis apparemment, il est là pour plusieurs semaines. Hein.
Ouais. Ce que je pense, la réponse est dans la question. C'était des joueurs qui se sentent pas dans le projet du nouveau coach et dans cette sélection-là et qui veulent pas prendre. Enfin, comment dire, qui aujourd'hui, on met un petit peu la sélection entre parenthèses parce que je pense qu'ils se sentent pas dans ce qui est en train de se faire actuellement en sélection. Mmh. Mais comme moi, en tant que supporter, je me sens, moi personnellement, les matchs, je les regarde, mais je ressens rien, tu vois. Donc moi, je me mets à la place des joueurs. Et à partir du moment où les joueurs, ils entendent différents discours, là, tu ramènes un coach, on sait pas trop, qui connaît pas le joueur, qui connaît pas le pays. Je te dis, moi, en tant que suiveur, je regarde ça d'un œil. Ils gagnent, ils perdent, ça me fait presque plus rien. Mais je pense que les joueurs, c'est un petit peu la même chose. Et là, il y a des échéances qui arrivent en club très importantes.
Oh oui.
Donc, moi, je pense que c'est ça.
Parce que le changement du calendrier européen, avec le bouleversement des compétitions, fera en sorte que, la sélection, bon, il y a bien sûr des obligations FIFA, mais je pense qu'il y aura peut-être moins d'entrain pour rejoindre la sélection par peur de perdre sa place en club.
Non, mais c'est surtout que la sélection d'Algérie aujourd'hui, elle propose. Quand tu rates le dernier mondial, excuse-moi, on revient là-dessus.
Il n'y a pas de projet aujourd'hui, soyons clairs.
C'est à propos. Enfin, quand tu vois le Maroc, les Marocains, ils rejoignent la sélection parce qu'ils savent qu'il y a la CAN qui arrive chez eux, ils savent qu'il y a la Coupe du Monde qu'ils vont organiser chez eux, peut-être qu'ils ne sont pas là.
Ouais.
Mais il y a un vrai engouement populaire derrière.
Ouais.
Là, aujourd'hui, l'Algérie, on a l'impression que ça joue, ça pourrait jouer sur un Teravac, c'est la même chose, on ne sait pas trop, quoi. Et puis en plus, tes compétitions passent, tu prends des claques dans des Coupes d'Afrique des Nations contre des petites équipes sans que ça fasse vraiment changer les choses. Donc je pense que même les joueurs aujourd'hui, je pense qu'ils se sentent pas dans l'aventure équipe d'Algérie. Comment c'est comme ça que je le vois. Puis la nomination du sélectionneur, t'as eu des années avec Jabel Belmadi qui avait quand même un discours. Bon, sur la fin, il était un peu fatigué, mais quand même, il se sentait quand même dans le pays. C'était ses joueurs, c'était son groupe. Là, tu leur enlèves ce mec-là pour remettre un mec qui a complètement rien à voir. Je sais pas. Moi, je pense que c'est ça l'histoire. Mais bon, après, c'est
l'aspect culturel, c'est énorme. Ouais.
Non, pas culturel, c'est aussi l'aspect humain, relationnel. Ils se sentent pas dans le discours du coach, dans ce qui est en train de se faire. Je pense que le président de la fédération aussi.
Est-ce qu'on leur a vendu un vrai projet, Sofiane, aux joueurs? À part le projet Coupe du Monde. Le reste,
t'imagines que t'as enlevé le sélectionneur avec qui ils étaient depuis 2018, et t'as mis un mec comme ça qui arrive, on sait pas pourquoi, il sait même pas ce qu'il fait là lui aussi. Je pense qu'en termes de motivation, en termes d'envie, je pense que l'équipe nationale aujourd'hui algérienne, il n'y a pas quelque chose qui va scinder le groupe et qui va les emmener à se dépasser, à jouer ensemble et faire quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le vois.
D'accord.
Et donc, aujourd'hui, se déplacer au Libéria, pourquoi ? Enfin, je sais pas. Les joueurs ont préféré mettre entre parenthèses, mais tu le vois avec. Mais moi, quelque part, les joueurs, je les comprends. Attention, c'est un parti pris, mais je comprends les joueurs. Ouais. Je comprends les joueurs. Mais tu vois que dans les autres sélections africaines, il y a aussi des problèmes. Regarde, le Guinée est parti jouer.
Ouais.
Ils nous ont battu chez nous parce qu'il y avait l'histoire des primes.
Oui. Ils n'ont pas touché.
Au moment donné, on en revient aussi à des choses essentielles, quoi. Tu vois, quand l'organisation en interne fonctionne pas. Les joueurs se sentent pas concernés.
Et d'ailleurs, les Guinéens, le fait d'avoir perdu le match chez eux, on va dire, puisqu'ils ont joué au Maroc, a fait que notre ami Diawara a perdu sa place de sélectionneur. Et tout ça parce que les joueurs, et surtout qu'ils ont perdu le match dans le temps additionnel, je me rappelle, ce qui se passe avec cette sélection, encore une fois, nous on a été mis au courant après, c'est l'histoire des primes que les joueurs n'ont pas touchées. Voilà.
Mais je suis pas étonné, moi, de... Ah, ce qu'a dit notre ami Sofiane, bien sûr.